Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Du tout terrain aujourd'hui à l'affiche avec notre ami Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Tu es en pleine forme là.
Je pète la forme, Guy, aujourd'hui.
Que se passe-t-il?
Incroyable. Je ne sais pas. On connaît les dates, les calendriers sont sortis. Tu vas nous parler du calendrier de motocross, du championnat du monde et d'autres aussi.
Et du championnat du monde avec Pascal Audicaire, qui est le grand reporter bien connu. On aura aussi le Dakar, bien sûr, parce qu'il est terminé, le Dakar. On aura l'Enduropal aussi, qui va se dérouler dans 3 semaines. Et aussi les courses des qualifications des championnats du monde de course sur glace, où notre Claude Guéden était présent là-bas en Suède par moins 38.
Oh là, il y a une sacrée température,
même,
ça.
Même pas froid, ouais. Tu vois. Ouais.
Voilà. Christine, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc ça y est, le calendrier est sorti, le calendrier Motoclub, avec plein d'infos à l'intérieur. Tu vas nous communiquer durant cette émission
quelques
sorties sympathiques,
voilà,
à faire.
Exactement, et un beau calendrier encore cette année, vraiment comme toujours.
Très bien. Laurent, bonjour.
Eh bien, bonjour à tous. Je ne suis pas réveillé, hein, excusez-moi. C'est parti, avec de la musique. Shooting star.
On va rendre hommage à José Barbara qui est malheureusement décédé il y a quelques jours.
En ce début d'année, oui. Alors José Barbara, figure connue dans le milieu moto et rallye automobile dans la région et au niveau national. Et nous avons dans les studios Gilles Guillon qui a publié un bouquin très intéressant sur la saga de José, hein, qui a commencé à 17 ans, le motocross. D'abord, il avait été en Angleterre, chez un préparateur de Triumph, Kate Anne, je ne sais plus...
Ines.
Oui.
Qui préparait les motos de Steve McQueen.
Ah, oui, c'est vrai, en plus, oui. Donc, vous voyez, déjà une renommée. Donc, il a commencé à rouler en Angleterre parce qu'en France, il fallait avoir 18 ans pour disputer du motocross, enfin, en compétition. Donc, sa première année en Angleterre. Ensuite, il revient en France, Cassel. Cassel, première épreuve, il la gagne. Donc, voilà, c'est parti. Quelque temps après, vu les bonnes performances de José au niveau régional, il s'inscrit en championnat inter-expert. C'était le championnat des inter-français. Mais José n'a jamais été champion non plus dans cette catégorie, mais c'était toujours un très bon pilote, bien classé. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, il a disputé aussi, il était sélectionné dans les championnats du monde de l'équipe de France. À l'époque, c'était les championnats du monde de 500 cm3. Il a disputé plusieurs grands prix, dont un grand prix en Italie. Il a terminé cinquième, alors que le vainqueur s'appelait Roger De Coster. Donc c'était quand même l'élite du championnat. C'était en 67 ou 68. Il a aussi disputé le motocross des nations qui s'est déroulé à Kishinev, c'était en Russie, et l'équipe de France, elle était partie en autobus, les dirigeants, les mécaniciens, les motos, les pilotes, mais en 68, c'était aussi une expédition de traverser les pays de l'Est. Alors, la France, elle avait terminé troisième. Une petite parenthèse, les grandes nations du cross n'étaient pas présentes en Russie à cause de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques de l'époque. Mais quand même une troisième place de la France en championnat du monde. José a eu un grave accident à Sourdeval, je crois.
Oui, c'est ça. Oui.
À Sourdeval. Grave accident, il a arrêté la moto. Il a arrêté la moto et il est parti sur les traces de son père qui faisait des rallyes automobiles. Mais néanmoins, il a quand même disputé les 6 jours internationaux à l'île de Man avec l'équipe de France sur Ossa. Il a disputé aussi le championnat de France d'enduro. On l'a vu aussi à l'Enduropal à plusieurs reprises sur une Portal moto française. Voilà, et puis José, après, bon, s'est tourné vers le rallye automobile, où il a été même pilote officiel de Ford, si je m'abuse, Gilles. Gilles, je te laisse...
Finalement, Gilles, pas la peine de faire un bouquin, hein. On a notre mémoire vivante, notre ami qui est vraiment... Non, c'est tout.
C'est bien parce qu'il en parle mieux que moi, parce que moi, j'ai surtout connu José Barbara, pilote de rallye. Moi, en motocross, j'ai vu une de ses dernières courses, je crois que c'était du côté de Dèvres, au milieu des années 80, et je me souviens que ce jour-là, il s'était distingué avec ses frères par un comportement un peu antisportif, mais c'est un peu peu aussi ce qui avait fait son image de marque, parce qu'en fait, c'était un mauvais perdant,
ah
José
oui.
Barbara.
Ah oui.
Un sale caractère, mais en fait, il faut comprendre, c'était un type qui avait la rage de vaincre. Même l'an dernier, à 72 ans, quand il prenait le départ d'un rallye, c'était pour gagner. Même s'il courait contre des...
Même encore à 72 ans.
Ah ouais, ouais. Même s'il courait contre des petits jeunes dont il aurait pu être le père, voire le grand-père, il était là pour gagner. Donc c'était un type qui avait la volonté, vraiment la rage de vaincre. C'était un gagnant, gagnant né. Alors il a gagné plus de rallyes que Sébastien Loeb. Il a gagné 111 rallyes en tout.
Quand même.
Évidemment, c'était pas le championnat du monde, mais il a gagné beaucoup de rallyes dans la région entre le début des années 80 et l'année dernière. Et puis il avait en motocross, il a gagné pratiquement autant d'épreuves, mais dans un laps de temps très court, puisque c'était en l'espace de 6-7 ans dans les années 60. Voilà. Mais il faut rappeler aussi qu'à l'époque, il y avait énormément de motocross, et il y en avait plusieurs le même week-end. Et en fait, José et ses frères, c'était un peu des chasseurs de primes, parce qu'il y avait des primes substantielles pour non seulement pour à l'arrivée, mais aussi pour prendre le départ. Donc ils étaient invités partout. Et puis, quand il y avait les ponts du mois de mai notamment, ils couraient tous les jours. Et il m'avait raconté qu'une année, avec toutes les courses et toutes les primes qu'il avait eues au mois de mai, il avait pu s'acheter sa première Porsche.
Ah oui,
c'est quand même pas mal. Et en fait, quand il a dû arrêter le motocross parce que les médecins lui avaient interdit de remonter sur une moto, parce que quand il a eu son accident à Sourdeval dans la Manche, on avait eu peur que la colonne vertébrale soit touchée. Et il a... les médecins lui ont interdit de faire du motocross parce que c'était trop dangereux. Tout de suite après, il s'est mis à la voiture. Il avait déjà commencé à courir en voiture, où il a marché sur les traces de son père. Et après, il s'est consacré au rallye pendant pas mal d'années, jusqu'à la crise pétrolière. Et ensuite, au milieu des années 80, quand il a rencontré Chantal, sa femme, qui est devenue sa copilote, ils se sont consacrés au rallye. Après, il a plus fait de moto depuis le milieu des années 80, pour se consacrer au rallye, avec plus de, je crois qu'il a dû prendre plus de 500 départs en rallye et 111 victoires, donc une course sur 5 de gagner, ce qui est pas mal. Et puis surtout, c'est la longévité, en fait. 50, plus de 50 ans de compétition, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Alors, il y avait un tempérament de vainqueur, parce qu'il est né le 6 juin 1944.
Voilà.
Forcément, on ne peut pas faire mieux.
Oui, puis comme autre anecdote, on peut aussi raconter qu'il a cassé sa première voiture une heure après avoir passé le permis de conduire. Il m'avait raconté qu'il a eu son permis. Et pour le récompenser, son père l'a emmené chercher une voiture. Je ne sais plus ce que c'était comme voiture. C'était peut-être une Triumph. Et en revenant, il n'a pas pu s'empêcher d'attaquer. Et il est sorti de la route, il a tapé un arbre. Et ça faisait un peu plus d'une heure qu'il avait son permis.
Tu parlais que c'était un pilote de teigneux. Tu connais la miche Alain Deloge.
Oui.
Alors, José a disputé une épreuve avec Alain Deloge.
Oui.
Alain Deloge le gênait, enfin...
Ah, il bloque passe. Ouais.
Et José n'a pas hésité de l'arrêter et de tirer sur son câble d'accélérateur.
C'est pas vrai.
Son moteur s'est emballé.
À ce point-là.
Je l'ai vu aussi avec
un
Belge.
Caractère,
avec un Belge, je lui donnais un coup de pied dans la roue avant, quoi.
Ah oui, c'est plus du bloc-pass. Hein.
Non,
ça devient un peu de
l'anti-jeu.
À l'anti-jeu. Hein.
Mais c'était le caractère à José, alors que dans la vie courante, c'était un cœur en or, quoi.
Oui, il n'était pas apprécié par tout le monde, parce que justement, il avait une grande gueule. Hein. Mais ces dernières années, alors est-ce que c'était le fait d'avoir vieilli ou quoi ? Mais il prenait les choses avec plus de détachement. Il n'allait pas trop s'emporter contre un adversaire, quoi que ce soit. C'était plutôt les gens qui venaient le chercher. pour le titiller. Mais sinon, il allait plus de lui-même.
Après tout, après la 73 ans, c'est ça ?
Oui, voilà. Ah, ouais.
Bon, on laisse un peu.
Non, c'était un sacré personnage. Et donc, son enterrement a eu lieu il y a une semaine à Aire-sur-la-Lys. Donc, c'est son fief, en fait. Et on était près de 2000 personnes dans l'église. Et il y a eu un moment très émouvant à la fin de la cérémonie, quand tout le monde va se recueillir devant le cercueil. On passe en général une musique en hommage au défunt. Et là, sa famille avait choisi une chanson qui lui correspond bien. C'est Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule de Johnny Hallyday.
Ah ouais.
Ah ouais. Oh là, oui. C'était, voilà, tout le monde s'est dit, bah oui, ah, c'est lui. Voilà. Mais c'était très émouvant parce qu'en fait tout le monde retenait ses larmes à ce moment-là parce que le choix était particulièrement bien fait.
Et c'est vrai qu'il avait une gueule. Surtout quand, par exemple, il perdait, on le voyait tout de suite.
Ah bah c'est ça, les gagnants, c'est ça. Ouais. Il faut avoir forcément.
Bah, c'était un personnage très attachant. Hein. C'était le fait qu'il ait une grande gueule et qu'il ait ses coups de gueule, c'était quand même quelqu'un de très sympa. Et il a marqué en fait l'histoire des sports mécaniques dans la région.
Alors que dans la vie chez lui, il s'occupait de poissons. Alors oui. C'était bizarre quand même.
Oui, il avait une collection de carpes koi. Ah, voilà. J'y connais rien en poissons, mais bon, quand on a préparé le bouquin, il était très fier de montrer le plan d'eau qu'il avait fait. Il a fait un petit étang en fait devant sa maison, et dans cet étang, il y a des carpes qui valent très très cher. C'était devenu sa passion. Il avait même installé un filet au-dessus du plan d'eau parce que les hérons avaient tendance à vouloir attraper les poissons.
Ah oui, ça, c'est voilà. On va passer à un morceau de musique et après on parlera du bouquin hein, parce que tu as consacré un livre à José.
À José voilà. Et à sa famille.
Et à sa famille.
À son père, à son grand-père. Voilà.
Très bien, on se retrouve après.
I give you one more chance, oh yeah, I do.
Le magazine de la moto, c'est sur Campus, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, on parle tout terrain et on rend hommage à José Barbara Guy.
Oui, alors José Barbara, je l'avais dit, une grande figure de sport mécanique de la région. Alors Gilles a été son coéquipier dans quelques rallyes.
J'ai eu peur. J'ai eu cette chance.
T'as pas eu peur
Le premier rallye, j'emmenais pas large en fait, parce que moi j'étais copilote débutant, j'avais fait quelques courses dans la région, et puis un jour en plaisantant, il vient me voir, il me dit ça te dirait de monter avec un vrai pilote. Je dis oui, pourquoi pas. Oui, j'ai dit tu veux me prendre comme copilote sur un rallye. Il me dit oui. Ah bah, j'ai dit Chantal est d'accord, elle me dit ah oui elle est d'accord. Bon bah donc on est allé faire ensemble le rallye Jeanne Hachette à Beauvais dans l'Oise. Bon, il y avait pas une forte opposition, hein, c'était pas on s'est baladé quoi. La victoire c'était presque gagné d'avance. On a été en tête du début à la fin, mais bon, j'étais quand même pas rassuré parce que c'est vrai que ça allait vite. Et puis surtout Chantal m'avait fait une blague, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit tu parles bien fort, parce que José, il est un peu sourd. Et donc, moi, j'étais tout le temps en train de hurler dans le micro. Et puis, au bout d'un moment, José, il me dit, mais arrête de gueuler comme ça, je ne suis pas sourd. Donc voilà, c'était José et Chantal, ils étaient inséparables. Et puis, on avait toujours l'impression que c'était elle qui l'engueulait. Mais non, c'était un jeu entre eux. Et moi, j'ai fait donc trois rallyes avec José. On en a gagné deux et le troisième a été interrompu avant la fin parce qu'il y avait eu un accident mortel. Deux de mes trois victoires en rallye, c'était grâce à José Barbara.
On parle pour José, je ne pense pas qu'il avait peut-être aussi... peut-être rêver d'un Dakar, on va en parler tout à l'heure, parce qu'au Dakar, il aurait été quand même, enfin peut-être pas vainqueur.
Ouais, il a touché à tout, mais le rallye raid, ça ne l'intéressait pas. En fait, lui avait posé plusieurs fois la question. Il m'avait dit peut-être un jour, il ferait le rallye historique du Maroc, c'est-à-dire avec des voitures anciennes, des voitures de rallye, mais le rallye raid, ce n'était pas son truc. Il avait touché à tout, par contre. Hein. Dans les années 60, il avait même fait quelques courses de circuit en monoplace. Hein. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il avait dû en gagner une, et il s'était fait remarquer, on lui avait fait une offre en fait pour courir dans une écurie structurée et il avait refusé parce qu'il trouvait que c'était pas intéressant. À l'époque, il préférait le motocross et puis après, il s'est tourné vers le rallye parce que il y avait ses copains qui couraient en rallye et puis il regardait souvent passer le rallye du Touquet et à un moment, il a eu envie de faire comme son père. Il faut dire aussi qu'il était d'une famille de pilotes moto et pilotes auto, puisque ses frères ont tous fait du motocross. Il y en a un, Jean-Jacques, qui a fait du rallye. Son père a fait du motocross et du rallye. Son père a aussi été un bon pilote de motocross juste après la guerre. Et son grand-père... qui est arrivé en France en 1917 avec l'armée portugaise. Il était motard dans l'armée portugaise pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il était mécanicien et son travail, c'était de circuler sur le front pour aller réparer les camions, en fait. Donc, les mécaniciens se déplaçaient avec des motos, je crois que c'était des motos indiennes à l'époque. D'accord. Et c'était une affaire de famille, en fait. Hein. Le seul truc qui l'intéressait quand il était gamin, quand il était à l'école, c'était la mécanique. Le reste, il n'en avait rien à faire. Il a quitté l'école très tôt parce que c'était pas son truc, mais il avait la passion pour tout ce qui était mécanique. Il y avait ça qui l'intéressait, il y avait ça qui comptait.
J'avais interrogé José sur le nombre de machines, enfin de marques différentes de motos qu'il a disputées en cross ou bien en enduro. C'est incalculable.
Ah, oui,
j'étais étonné parce que dans ton bouquin, il y a plusieurs photos. S'il a commencé sur une Triumph Métis à boîte BSOF, ou bien c'était une Métis. Ensuite, il a roulé sur une BSOF Victor, la moto de l'époque qui était championne du monde. Ensuite, il est parti en deux temps sur des Maiko, des marques allemandes. J'ai vu qu'il a roulé sur une Portal, c'était une marque française. avec un moteur italien, mais c'était quand même construit en France. Il a roulé sur Hercules, il a roulé sur Husqvarna, il a roulé sur Yamaha aussi, je crois. Osa, donc il a fait toutes les marques.
C'était un pilote amateur qui courait au coup par coup et souvent avec ses propres moyens, ou alors quand il avait un constructeur qui lui proposait une moto pour quelques courses. Donc c'est pour ça qu'il changeait souvent, parce qu'il n'avait pas un contrat pour des saisons complètes. En fait, il courait de temps en temps. Et puis, il faut rappeler que dans les années 70, la priorité, c'était pour lui, c'était de gagner sa vie, donc de faire tourner le garage familial, et le motocross et l'enduro, c'était des choses, c'était pour ses loisirs. En fait.
Annex, quoi. Voilà. Tonight we're gonna clap our hands tonight, our hands tonight, our hands tonight. Tonight we're gonna clap our hands tonight, and we'll be clapping till the night is gone. You know we're gonna stomp on through the night, through the night, through the night. You know we're gonna stomp on through the night, and we'll be stomping till the break of dawn. Well, I'm going to the station, I got a suitcase in my hand. Gonna leave my old hometown in search of a foreign land. Maybe there's someone out there that I could call my own. So when my day's over, won't be so alone. Sweet chariot, come to take me home. You know I try to love you all the time, all the time.
Là, le magazine de la moto sur Campus 106,6 ou 3W Campus Lille. On revient un peu sur... on rend hommage à Guy, donc à José Barbara, donc un monsieur à grand caractère, en fait, on va dire ça. Hein.
En effet, oui. Et il ne faut pas oublier aussi que le même jour est décédé aussi Bernard, qui était vice-président de Pécancourt, et l'enterrement...
Bernard Fromont.
Voilà, qui s'est déroulé aussi le même jour, enfin pas dans le même endroit, mais deux personnages bien connus de la région qui...
Qui avaient aussi du caractère, qui avait, on va dire, ouais, Bernard. Hein.
Bernard c'était, aussi, ouais. Alors, on va finir avec... Enfin, Gilles, on va en parler, on peut en parler pendant des heures.
Oui, en fait, moi, je voudrais savoir où est-ce qu'on trouve ce livre.
Alors, il est toujours disponible en librairie et sur Internet. Il est paru il y a un peu plus d'un an, en fait. Donc, il est toujours disponible. Sur la métropole lilloise, vous pouvez le trouver au Furet du Nord à Lille et au Furet du Nord à Anglo. Et sinon, dans les librairies autour de Béthune, Air sur la Lys, Le Touquet, etc. Et sinon, sur Internet, sur le site de la maison d'édition, donc Pôle Nord Édition.fr. L'annonce de son décès a suscité une série de commandes et j'étais très surpris parce qu'en fait il y a des commandes qui sont arrivées de l'étranger. J'ai reçu des commandes d'Italie et de Russie. Je me suis dit tiens, il était connu jusque
Il va falloir le traduire ce livre peut-être.
Oui,
ça te fera des nouvelles éditions alors.
Traduire en italien, ça va, je devrais.
Mais en russe,
ça va être compliqué.
Demande à Guy, il est d'origine polonaise, donc
ça n'a rien à voir.
Mais c'est un beau livre parce qu'il est vraiment imagé et c'est vraiment superbe.
Et bon, parce que dans ce livre, bien sûr, sur ces courses automobiles, c'est beaucoup plus précis que...
Oui, moi, je suis un spécialiste du rallye. C'est vrai que la moto, c'est pas trop mon domaine. Et quand j'ai demandé à José... En fait, il m'a raconté... Le livre est écrit à la première personne, mais il m'a raconté sa vie. Et après, moi, j'ai mis ça sur papier. Et avec l'aide de Bruno Sailly, qui est la vraie encyclopédie du sport automobile dans la région, on a recoupé les informations, on a vérifié. Parce qu'en fait, José, il fait tellement de choses qu'il avait une mémoire un petit peu défaillante. Souvent, il mélangeait les courses. Donc, Bruno Sailly s'est plongé dans ses archives et puis il vérifiait tout ce qu'il nous racontait. Mais c'était pour la partie rallye. C'est vrai que pour la partie moto, c'est moins précis. Et José a fait tellement de courses en moto en peu de temps qu'il en a oublié la plupart, quoi. De temps en temps, en voyant une photo, etc., il me disait « Ah oui, ça, c'était à tel endroit, il y avait un tel. » Il me parlait de Rémi Julienne, contre qui il s'était battu en course. Par contre, une fois que le livre était sorti, je lui dis « Mais tu étais en vacances quand tu avais 17 ans chez le préparateur des motos de Steve McQueen. Est-ce que tu as rencontré Steve McQueen ?» Il m'a dit « Ah, je crois que j'ai fait une course avec lui. » Je lui dis « Mais tu n'aurais pas pu me le dire pour qu'on le mette dans le livre. » Mais à l'époque, ça l'intéressait pas trop. Ses parents l'avaient envoyé en vacances en Angleterre pour qu'il apprenne l'anglais. Mais chez un préparateur moto qui était un ami à eux, qui faisait du motocross. Et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout appris l'anglais. Mais par contre, à la première occasion, il est monté sur une moto et il a disputé un motocross. Voilà.
Et ce pilote venait souvent au motocross d'Air sur la Lys.
Voilà, tout à fait. C'était un ami de Roger Barbara, le père de José. Roger Barbara, qui est toujours vivant. Hein. Il vit dans une maison de retraite à Air sur la Lys. Et donc son ami Ken Innes venait régulièrement courir dans le Nord-Pas-de-Calais. Et de son côté, Roger Barbara allait aussi souvent courir dans le sud de l'Angleterre. Donc c'est comme ça qu'ils avaient fait connaissance. Et puis donc José était envoyé suivre des vacances d'anglais là-bas, mais il m'a dit à la fin de mon séjour, les autres parlaient français. Voilà. Parce que lui, il n'avait toujours pas appris anglais.
D'accord.
Et je me rappelle, par exemple, tu sais, dans ton bouquin, il marquait qu'il était second de Roger de Coster au Grand Prix d'Italie en Majorance, hein, alors qu'il était cinquième, tu vois. Alors, il ne se rappelait plus parce que bon, j'ai les classements officiels. Bon.
Ouais.
Je ne l'ai pas contesté, parce que bon...
Non, mais il avait tendance un petit peu à mélanger les courses, et même sa première victoire en rallye, il m'avait raconté qu'il avait gagné le rallye de Touquet ou le rallye Flandreno, et Bruno Sailly m'appelle un soir en disant « Mais non, c'est pas ça, il n'a pas gagné ce rallye-là. Avant ce rallye-là, il en avait gagné un autre. »
Ah oui,
et quand j'en ai parlé à José, il m'a dit « Ah bon, t'es sûr ?» Ben, je dis oui, c'est Bruno qui le dit. Il a les classements de l'époque, il a les coupures de presse. Il dit ah bon, peut-être. Donc il avait oublié. C'est pas qu'il avait oublié, mais c'est qu'il s'était passé tellement de choses depuis. Il a eu une vie sportive tellement chargée que c'était loin. Il avait dans son garage toutes ses coupes. Il y avait un mur entier recouvert de coupes. Il y a des photos dans le bouquin.
Ouais,
il avait des bacs remplis de journaux, de magazines, de feuilles de classement, de photos, etc., etc. Donc il a fallu tout trier, tout mettre en ordre. C'était quand même un gros travail pour faire ce livre. Il y a eu à peu près 6 mois de travail, à peu près. Parce qu'en fait, les archives n'avaient jamais été. Était trié et tout était là, mais bon, il fallait y consacrer du temps et après lui faire raconter ses souvenirs.
Une chose que tu devrais savoir, il avait toujours sa coéquipière, c'était Chantal.
Oui.
Mais il y a eu plusieurs femmes comme coéquipières. Pourquoi oui. il prenait elle criait moins fort que...
Ah, ça, je sais pas.
Non, mais elle pouvait se défouler.
Il n'y a pas eu que des femmes. Mais c'est vrai qu'il courait essentiellement avec Chantal, mais quelques fois dans l'année, Chantal passait son tour, elle laissait la place à quelqu'un d'autre en fait, parce qu'il y avait certains rallyes qu'elle aimait moins, donc elle disait oh non, moi ce rallye là ça me dit rien de participer, et donc elle préférait y aller juste pour accompagner. Elle laissait volontiers sa place dans la voiture, et il y avait pas mal de prétendants, hein, pour monter avec José, des gens qui disaient ah oui, mais quand j'ai couru avec lui, il y a des copilotes qui sont venus me voir en disant combien il t'a demandé.
Ah ouais.
Oui, parce qu'en fait.
Moi, j'aurais peur.
Ouais.
En passager.
Oui, en passager.
J'aurais peur.
Non, mais les gens étaient persuadés qu'en fait, il m'avait pris avec lui parce que j'avais amené un sponsor, en fait. J'ai dit, c'est lui qui est venu me proposer comme ça. C'était un petit peu un défi, quoi, en disant est-ce que tu es capable de faire un rallye avec moi, quoi. Voilà.
Ouais, tu nous dis pourquoi tu as consacré un livre.
Oui.
On va passer à un morceau de musique et puis. On va revenir un petit peu sur la question que je t'ai posée.
7. When you hold me, little girl, I'm in constant heaven. Honey, hey, baby, don't you wanna go? Come on down, back to the land of California, a sweet home, Chicago. Oh, baby, don't you wanna go? Honey, hey, baby, don't you wanna go? Back to the land of California, sweet home, Chicago. Back to the land of California, sweet home, Chicago.
Hommage à José Barbara Guy aujourd'hui, qui est décédé le 2 janvier en fait.
Oui, le 2 janvier. Voilà, et puis on reparle un peu de José, parce que là, sinon on peut parler du calendrier qui a sorti.
Oui, bien sûr, ça y est, c'est sorti le calendrier.
Hier,
hein,
c'était
primeur.
La grosse fête.
Hein.
C'était plus que la grosse fête d'ailleurs.
voilà. Et puis je suis content parce que vous êtes retrouvés, vous, les crossman, hein, ensemble.
Ah, oui,
il y avait une bonne brochette de crossman hier avec Pascal, Xavier Couteau, toi.
Oui, en effet, ouais. Et d'autres aussi, mais que je ne me rappelais plus de leur nom, quoi.
Très bien, voilà. Donc allez, on parle un petit peu de ce calendrier qui est sorti en primeur hier. Donc ça se passait donc à partir de 17h et puis ça a duré une bonne partie de la nuit.
Oui,
presque,
tard,
Christine.
Très tard. Du matin. Mais bon, voilà,
il y avait un bon groupe. Voilà, très bien. Alors tiens, je vais prendre une page, tiens, comme ça au hasard, 35. Donc, des idées de balade. Alors cette année, on a eu envie de mettre des idées de balade, donc des musées surtout. Et puis un musée que Christine connaît bien, puisque c'est dans sa région là-bas, en Mayenne.
Exactement, c'est le musée moto ancienne de Jean-Luc Gagnon. Donc Jean-Luc Gagnard qui donc vit en Mayenne, donc tout près d'où j'habite en fait, et en fait nous propose un superbe musée de motos anciennes et voire des véhicules, et donc vous pouvez, et en plus c'est quelqu'un de charmant, et il est passionné depuis l'âge de 14 ans sur de motos anciennes, il vous propose une belle petite balade dans son musée, à peu près 2 heures. Pendant 2 heures, vous êtes vraiment dans un autre univers, on va dire. Et de toute façon, nos yeux sont partout, tellement il y a de choses à regarder.
Donc, il n'y a pas que le musée aussi dans cette région.
Ah ben non, c'est vrai.
Il y a beaucoup de choses à faire. Hein.
Donc oui, mais en Mayenne, on a... C'est
vraiment une belle idée de balade.
Oui, c'est une belle idée de balade. Donc la Mayenne, située aux portes de la Bretagne, eh bien, c'est un écrin de verdure où court la Mayenne, une rivière avec son halage de 85 km, mais c'est aussi plein de petites routes sympas, des routes de campagne qui vous permettent justement de vous balader dans une campagne bien verdoyante.
Donc, ils sont sympas les Mayennais, Mayennaises.
Très sympa.
Les mayonnaises.
Très sympa. Et d'ailleurs, moi, je vous invite à venir visiter ce département.
Laval, à Noël, c'est...
Laval, c'est des illuminations
qui sont d'artifice lumineux. Hein, c'est
connu.
Toute la Mayenne est illuminée. Les ponts sont illuminés.
Voilà. Il y a des milliers de personnes qui viennent voir justement les illuminations.
Il y a plein de camping-cars qui sont là, les gens qui viennent visiter donc Laval.
Oui, c'est une jolie région et vraiment qui mérite le détour, surtout quand vous allez en Bretagne. De toute façon, vous passez par là. Alors, il faut vous arrêter et venir visiter Laval, sa région, le musée de Jean-Luc Gagnard. Alors juste pour ce musée, il faut savoir que c'est un musée privé et donc les visites, il faut donc téléphoner pour faire la visite. Et c'est toujours des visites en groupe, sur demande, c'est 15 personnes à peu près au minimum.
Et Christine, tu proposes aussi de éventuellement guider les gens qui, qui ne connaissent pas cette région et leur montrait forcément le musée de Jean-Luc Guénière, mais aussi d'autres choses, hein,
oui,
cette fabuleuse région.
Si vous êtes intéressé, c'est quand même 500 km de Lille, donc évidemment on n'y va pas pour une seule journée. Donc
bah,
moi je vous
jours,
propose
hein.
Effectivement de vous faire visiter un petit peu la Mayenne. Et voilà, comme moi je suis à 8 km du musée, eh bien je peux vous proposer un petit séjour de plusieurs jours.
Voilà, il y a du bon vin aussi en Mayenne. Hein. C'est le
du cidre.
Du cidre. Mais non, bon. Le Coteau du Lion, c'est quoi c'est
Ah, le Coteau du Lion, c'est du côté d'Angers.
C'est Angers. Hein,
c'est pas tout à fait pareil. C'est plutôt du cidre.
Qui va être connaisseur,
du pommeau.
Pommeau, oui.
Pommeau qui est vraiment délicieux.
Ok, d'accord.
Donc voilà.
Idée de balade. Donc voilà.
Et en Mayenne, il va y avoir le Grand Prix de motocross.
Alors, Ernée,
il se trouve à combien de chez toi?
Alors, il y a 20 minutes de chez moi, le motocross dernier, effectivement. Et ben voilà.
Le 27 et 28 mai.
Voilà. Donc, c'est un long week-end. Effectivement, vous pouvez venir en plus voir donc, le musée et aller justement au motocross dernier.
Ernée, c'est une petite rivière, hein, je pensais. Ça, une petite rivière qui se jette dans la Mayenne. Hein.
Tout à fait. C'est une jolie petite rivière qui se. Voilà.
Voilà. Très bien, on passe à un morceau de musique et on se retrouve après.
Oh,
Alors, Guillaume, retour avec Gilles Guillon. Alors, Guillaume, tiens, mais est-ce que tu n'étais pas parent avec, on en parlait hors antenne tout à l'heure, avec Stéphane Guillon, par exemple?
Bah non.
Peut-être, hein.
Ni avec Stéphane, ni avec Bruno.
Ah oui, oui, Bruno aussi. Voilà. Ouais.
Ouais. Non, c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de Guillon connus. Bah
oui. Voilà. Ouais, alors, hormis le bouquin sur José et Barbara, Gilles a concocté la Bible des estaminés. Alors, la Bible des estaminés, bon, c'est un ouvrage qui va nous servir, nous, aux motards, parce que souvent, il y a des assemblées générales, des réunions. Et Gilles a fait tous les restaurants du Nord-Pas-de-Calais. Et
non,
je ne sais pas si
pas
il a
les estaminés.
Pas bonne mine.
Quelle santé.
Un dur métier.
Je ne sais pas s'il a goûté à tous les plats. Tu as mis combien de temps pour faire ce bouquin?
En fait, c'est un livre que je... C'est la cinquième édition. En fait, c'est un livre que je fais depuis 15 ans. On sort une édition tous les 3 ans. Je dis on parce qu'en fait, on est deux à le faire. Il y a Sébastien Gavini, qui est un journaliste bruxellois qui s'occupe de la partie belge, la partie des estaminés flamands. Et puis moi, je fais la partie nordiste, en fait, les estaminets qu'on trouve dans le Nord, le Pas-de-Calais, un petit peu dans la Somme et le Dordogne.
D'accord. Donc ça met quand même un certain... Enfin,
Oui, c'est les premières éditions ont été compliquées à faire parce qu'il fallait tout répertorier, il fallait tester, etc., etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup de mises à jour. Et puis on se concentre sur les nouveaux estaminets, ceux qui apparaissent, qui se créent. Il y en a de tous les mois, il y en a des nouveaux en fait.
D'accord. Ouais. Et alors tous ces estaminets, bon, c'est pas des 3 étoiles, c'est très.
L'estaminet, c'est un endroit où on peut faire la fête, on peut manger pour pas très cher, on peut boire de la bière. C'est une ambiance décontractée. Ce sont pas des lieux réputés pour la gastronomie. Hein. C'est pas le guide Michelin, cette Bible. Des estaminets. En fait, on a recensé 200 endroits où on aurait envie d'envoyer nos amis.
Tu vois, Gilles, alors Christine qui est mayonnaise, elle ne connaissait pas les estaminets, dans les Flandres, tu vois. Elle connaît Cassel, Bolzel, le Potchevêche,
la Carbonade. Et toutes les bières.
Toutes les bières, on n'a pas fini encore. Hein. Voilà.
J'ai vu en lisant, parce que j'ai tout lu, hein,
tu l'as dévoré.
Non, j'ai dévoré. Non, parce que j'organise une balade, alors j'ai essayé de choisir.
Je trouve qu'il salive. T'as grossi aussi, il va falloir faire un petit régime. Hein.
J'ai vu qu'il y avait un piège dans ce bouquin. C'est-à-dire pour éviter de recopier les infos. Et c'est quoi ce piège?
Non, c'est tout bête. Moi, je viens de la presse automobile et les journaux automobiles ont tendance toujours à se copier les uns les autres. Et dans le journal où je travaillais, on avait eu l'habitude, en fait, de mettre une erreur volontaire dans les classements, par exemple.
En effet,
on mettait une erreur de temps ou une erreur de prénom. Et puis, comme ça, on voyait si les concurrents recopiaient ce qu'on avait fait. Et donc là, en fait, comme il y a dans les premières éditions, ce guide a été beaucoup copié. Et les copieurs ne citaient jamais leurs sources, en fait. Hein. Ils disaient même que c'était eux qui avaient fait ils l'avaient écrit en premier et que c'était nous qui avions copié. Et donc maintenant, on s'amuse à changer des petits trucs. Bon, c'est pas gênant pour le lecteur, parce que un estaminet qui est 12 rue de l'église, au lieu de mettre 12 rue de l'église, on met 10 rue de l'église. Donc le type qui recopie, il va recopier 10 rue de l'église. Et là, on voit tout de suite qu'il a recopié. Ou alors, on change le prénom du patron ou de la patronne. J'ai fait ça avec un estaminet, l'Azuin, qui est le long de l'autoroute vers Métrenne. Et la patronne, je l'avais appelée, alors je ne sais plus si elle s'appelle Marie ou Sophie. Enfin, j'ai changé son prénom. Et maintenant, chaque fois que je la vois, elle me dit « Faites attention, hein, parce que tout le temps, il y a des erreurs sur mon prénom. Ben, » Je dis « Oui, c'est de ma faute.
D'accord.
C'est moi qui l'ai fait. » Mais ça avait été recopié par plein de gens.
Nous, on a recopié un peu sur le calendrier proposé par Kikin Kout et tout, qui est sorti hier soir. Hein. Luc, bonjour.
Bonjour, salut l'ami.
Ça va bien?
Depuis hier soir.
Depuis hier soir, oui.
Parce que c'était quoi hier soir?
Donc c'était la sortie officielle hein, du calendar 2017.
Voilà, c'est ça. Donc, on a mis donc page 19, on peut retrouver la Bible des estaminés. Voilà. Écoute, on a recopié. Hein,
merci. On n'a pas recopié, on a fait un petit communiqué de presse pour annoncer la sortie.
Donc toute l'année, on va pouvoir, si on a envie de faire une petite balade samedi soir, aller manger à un petit endroit sympathique, et puis faire une petite balade dans les Flandres.
Voire même organiser une réunion de motoclub.
Voilà, exactement. Bonne idée aussi, ça.
Oui, puis il y a des adresses qui sont bien connues des motards déjà dans le guide, hein, comme le trou flamand à Le Dringuem ou alors à Bolzel, autour du monde.
Voilà. C'est bien qu'on parle de Flandre parce qu'on a justement Anthony Dwin qui vient d'arriver dans les studios. Il est des Flandres en fait.
Et j'ai vu que tu as remercié pas mal de gens. Dont Guy, c'est moi, donc.
Oui, parce que tu m'avais donné quelques adresses. Ouais, en
effet. Alors, je suis co-auteur.
Je voudrais une autographe.
Tu vas demander des sous, alors.
Contributeur bénévole.
Voilà.
Il va vouloir être goûteur, tu sais.
Ouais, voilà.
Goûteur des estaminés.
Alors,
ça coûte combien, ça?
Alors, ça coûte 11 euros. On peut le trouver dans la plupart des librairies de la région. Il est beaucoup plus diffusé que le livre sur José Barbara. Parce que c'est vrai que le livre sur José Barbara, il y a certains libraires qui me disent « Ah oui, mais ça va intéresser qui ?» Donc voilà. Donc c'est pas toujours évident de le trouver en librairie. Par contre, la Bible des estaminés, vous l'avez un petit peu partout. Ou sinon, vous l'avez sur Internet.
J'ai eu du mal à le trouver aussi. Parce que
C'est parce que tu habites dans une région, dans un coin où il n'y a pas beaucoup de librairies.
Non, c'est vrai, parce qu'ils sont fermés.
Allez, un morceau de musique et on se retrouve après.
We'll
Le calendrier des motoclubs 2017 avec notre ami Locke.
Salut les bonjour. Là. Oui, rebonjour.
Voilà. Ça va bien depuis hier soir?
Ah, nickel, moi, impeccable, moi, impeccable.
Belle soirée hier soir.
Je suis reparti sur ma Trion sans problème.
Impeccable, mais oui, bien sûr.
Ouais, belle soirée, tout à fait.
Est-ce que tu as retrouvé ta Triomphe? Parce qu'il y avait plusieurs modèles là-bas.
Il y avait, mais justement, on les avait étiquetés pour pouvoir les reconnaître. Voilà, il y avait toutes les années, enfin, c'était des bonnes villes qui étaient exposées des origines jusqu'à 2016.
Voilà, 2016, oui.
On faisait aussi de la pédagogie en exposant nos machines.
C'est très bien, ouais. Bah,
tout comme dans le calendrier, cette année, on fait aussi de la pédagogie.
Oui, hein, si on veut, oui.
Alors, c'est quand même une nouvelle édition. Donc, c'est la 17e, quand même. Hein. C'est une nouvelle édition. La nouveauté, c'est que on est monté à 8 pages de plus pour pouvoir y mettre toutes les infos. Parce que, notamment, les motoclubs, maintenant, nous connaissent, nous donnent leurs infos. Mais il y a aussi, avec les réseaux sociaux, on en reçoit de toutes parts, bien sûr, de la région Nord-Pas-de-Calais. Ex-Nord-Pas-de-Calais, aussi de l'ex-Picardie, de la zone frontalière de la Belgique, mais aussi avec les réseaux sociaux, on en a de toute la France, non seulement les motoclubs, mais aussi les organisateurs des manifestations qui nous envoient aussi leurs infos. Donc les 40 pages, pourtant c'était pas mal, 40 pages, mais du coup suffisait plus, donc on est monté à 48 pages, et ça nous a permis donc de mettre quasiment toutes les infos qu'on a reçues, plus du coup, comme il y avait un peu de place, quelques encarts rédactionnels, comme notamment la présentation de la Bible des Estaminets, voilà, de notre ami.
Et puis aussi, c'est nouveau ça, des idées de balade.
Et des idées de balade, notamment
en
Mayenne.
Pourquoi pas, Anthony,
hein,
voilà.
Notamment en Mayenne, mais aussi, par exemple, il y a une présentation des grands musées moto de France, où à chaque fois, on a un petit texte qui...
Alors, je suis allé sur les sites, hein, c'est pas mal. Hein, il y en a un, là, c'est Savigny-les-Bois, je crois, c'est ça.
C'est juste après.
C'est, ouais, juste après, oui. C'est impressionnant parce que là, c'est pas que de la moto, c'est des avions, c'est énorme. Je crois qu'il y a bien deux jours à visiter ce musée. Là.
Ouais, mais t'as aussi des musées un peu plus petits comme celui de Saint-Quentin, qui est pas très loin de chez nous,
ouais,
mais
voilà,
qui est aussi sympa. T'as des machines exposées, il n'y a pas longtemps, elle fonctionnait encore, quoi, cette usine. C'est sympa aussi, quoi. Donc, je voulais dire aussi qu'en nouveauté, c'est les illustrations. Du calendrier qui sont une... Oui, il y a Guy qui m'interpelle. Vas-y, Guy, je t'en prie.
Lorsqu'on parlait des musées, je voulais simplement dire que il y a une pétition sur... est-ce que tu l'as vu? Oui.
Alors on va en parler dimanche prochain.
Ah, d'accord. Voilà, avec Gilles Détailleur qui a mis une pétition,
Patricia, oui,
pour le,
voilà, ce sera le
musée,
l'émission qui sera consacrée
musée,
justement.
Musée Maurice Chapleur.
Ouais, Chapleur,
qui
voilà,
va
tout
être,
à fait. Ouais.
Qui va être
le maire est en train de piller, de revendre les motos. En loose day, comme ça. Voilà.
Alors que normalement, on voulait que ça soit classé patrimoine national.
Voilà,
c'est
alors,
ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on en parlera la semaine prochaine, pas de souci. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que tu as les illustrations aussi cette année, parce que c'est pas qu'un calendrier qui donne des dates, c'est aussi un bel objet. Et les illustrations, tu sais, Guy, on l'a trouvé en fait en mettant une petite annonce dans la vie de la moto.
Ouais, voilà.
Genre, tu vois, association de motards cherche dessinateur pour illustrer son calendrier, quoi, tout simplement.
C'est par là qu'on voit qu'il y a même des lecteurs.
Il y a quand même des lecteurs, bien entendu. Bah, de toute façon,
c'est
normal, la Ville de la Moto étant un partenaire avec tous les gens qui nous écoutent.
Voilà.
Ça leur fait aussi des lecteurs. Et donc, c'est Jean Bastiani, un graphiste illustrateur à la retraite, qui nous a répondu. Il a 71 ans, il est arrivé sur la moto assez récemment finalement, quoi. Et bon, il s'est pris de passion et puis il s'est mis à dessiner des motos. Et donc pour nous, exprès pour nous, il nous a dessiné 10 bécanes, un peu de tous les âges, un peu de tous les styles. Et donc elles étaient fournies sur un fond de uniforme qui nous convenait pas trop. Donc il y a Emeline Suri, tu connais Guy, c'est celle qui a illustré le calendrier l'année dernière, qui est aussi dessinatrice à l'aérographe, mais qui est aussi infographiste, et qui a détouré tous ses dessins pour ensuite les mettre sur des images, des photos qu'on a nous-mêmes fait et qu'ils ont été aussi retravaillés pour donner un petit côté artistique. Et ensuite, il y a notre ami Nico qui...
Alors ça, c'est l'idée Télépoche. Hein.
Voilà.
Les gens qui ont connu le magazine TV,
Télépoche.
Télépoche, il y a quelques années. Là.
Des années 70-80.
Hein. Il y avait toujours une page...
Pendant 15 ans.
La troisième ou quatrième page, c'était toujours consacré à une moto.
À une moto.
Avec l'historique de... Bah, pas l'historique.
Une présentation.
La présentation de la moto avec la cylindrée, la puissance.
Et tu avais le logo Télépoche au-dessus.
Ouais.
Et on a reproduit, on s'est inspiré de ça, effectivement.
Et c'était fait par François-Marie Dumas.
Oh, quelle culture.
Oh là.
Et bien chez nous, tu vois, c'est fait par Nico, qui a aussi une très grande
culture. Il faut arrêter le pot de chevêche.
Et les textes sont super intéressants parce qu'ils remettent véritablement les machines dans leur contexte.
Il y a une petite polémique sur la Triomphe qui est en couve. Il paraît que le moteur, ce serait pas vraiment le moteur de Triomphe. Hier soir, on en discutait.
Ouais. Mais d'après Nico, si. Il a fait des recherches. C'est bien.
Mais bon, écoute. À voir.
Ah non, c'est bien un TR5.
C'est un TR5. Et donc, cette moto, on l'a retrouvée dans un feuilleton Fonzie qui était dans les années 80.
Tout à fait. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a James Dean aussi.
James Dean aussi.
Bon, mais il n'y a pas que des motos vintage, il y a aussi des motos relativement récentes hein, quand même dans ce calendrier.
Et je rappelle que le fond de l'image, c'est une distillerie de whisky qui a été prise par.
En Irlande.
Lors d'une balade en Irlande.
C'est la distillerie de James.
Mais ça colle bien.
Ouais. Nous aussi, on va bientôt pouvoir faire un guide.
Distillerie.
Mais sinon, au sujet du calendrier aussi, si on peut le distribuer gratuitement en 35 000 exemplaires, c'est quand même grâce aux annonceurs qui sont dedans, qui nous font confiance chaque année. Et ils sont fidèles, et bien sûr, ils sont composés de tous les spécialistes, les professionnels de la moto, mais aussi des cafetiers et des restaurateurs qui nous soutiennent et qui nous connaissent bien. Alors, ce calendrier sera en cours de distribution à partir de cette semaine, et on le trouvera dans tous les lieux fréquentés par les motards de la région et également, enfin, de la région donc Hauts-de-France et aussi dans la zone frontalière de la Belgique. Et il sera également en téléchargement sur notre site internet en début de semaine.
Très bien. C'est bon pour le calendrier.
C'est bon pour moi.
Si on va le retrouver aussi sur notre site.
Mère Noël, quand même.
Le dessin de Fred, c'est vrai. Chaque année, il y a une pin-up.
On doit en parler quand même un peu.
Dessinée par Fred. Noël. Fred, notre ancien illustrateur émérite, et qui, chaque année, nous dessine la Mère Noël. Et donc là, il nous a fait une Mère Noël
généreuse.
Sympathique, voilà, généreuse.
Mais sympathique.
Oui, généreuse.
Voilà, en sous-vêtements rouges.
C'est Noël.
Bah ouais. Marqué Joyeux Noël. Voilà.
Ça sera pour la fin de l'année, on n'est pas là encore.
Mais comme je sais que vous êtes tous curieux, vous allez tous aller au mois de novembre-décembre pour aller voir, n'est-ce pas?
Bon, voilà. C'était. Ben voilà, donc le calendrier, ça y est, c'est sorti.
Voilà, en cours de distribution.
Voilà, très bien. Allez, on va revenir après le morceau de musique, on va parler de. De cette marque qui va disparaître, qui a disparu, avec Anthony, c'est Victory. L'actu, c'est tombé cette semaine. Ouais. Voilà, Victory du groupe Polaris, en fait. Ouais. On passe un morceau de musique et on parle de ça après.
Yeah. discovered the fall of most men, their sin, a burden called addiction. It's enough to bring a man to his knees, say, Lord, save me, please. Then Pastor Jerry said, Uncle Ben, I don't think we're that far off. Tell me, do you believe Jesus is the Son of God? I do, sir. Do you believe that he's the King of Kings? I do, sir. The boy!
Là, l'actu cette semaine, c'est on a appris la fin de cette marque de moto américaine, donc Victory, du groupe Polaris. Enfin, Victory, donc c'est, Polaris, ça fait des motos des neiges, hein, ça fait des tas de trucs. Hein,
Polaris fait beaucoup de choses, énormément.
Et donc, et deux marques de moto, Indian et donc Victory, depuis une dizaine d'années, hein, Victory.
Victory depuis 98.
Voilà.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis et en France depuis avril 2010. Les premières sont arrivées en France en avril 2010.
Alors Anthony, toi, tu étais, t'as l'air tout tout triste là.
Ouais. Bah oui, parce que c'est une marque.
Les auditeurs que tu vendais ces motos. Enfin, ouais, on peut pas en passer maintenant.
Bah on les vend toujours parce qu'ils prévoient pendant 18 mois l'arrêt progressif de la marque. Donc il y a toujours des motos qui sont en vente, mais c'est un peu brutal, hein, effectivement.
Qu'est-ce qui a pu se passer pour En fait, le nom Victory, c'est un nom qui a été inventé.
C'est un nom. Polaris s'est dit un jour, tiens, on va se lancer dans la moto.
Ça n'a pas d'histoire. Il y a pas de.
Non, ils avaient été débauchés par la famille. Enfin, ils avaient débauché la famille Ness et puis voilà, ils ont créé une marque de toutes pièces. Et ils ont produit ça pendant pratiquement 19 ans, 60 modèles en tout depuis 19 ans.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer les gens qui ont acheté des machines, les motos encore
sont toujours, ouais, elles sont toujours garanties. Enfin, pour les gens qui ont acheté des motos, elles restent garanties. Il y a un SAV pendant 10 ans, il y a des pièces. Nous, on va pas lâcher nos clients, ça c'est clair, de toute façon. Et puis bon, la volonté de Polaris, c'est pas non plus de dire du jour au lendemain on arrête. Ils recentrent une activité sur une marque qui a fait trois fois le volume en trois. Enfin, Indian a fait trois fois le volume des Victory en trois ans de temps, quoi. Donc ils vont mettre toute l'énergie sur Indian.
Alors c'est curieux parce que moi j'ai essayé les deux modèles. Hein. J'ai essayé une Victory, j'ai essayé Indian. Je préférais sincèrement. Hein, je préférais la Victory.
C'était beaucoup plus rageur.
C'était fabuleux ce moteur.
Ouais, exactement.
Par rapport à l'Indian qui est un peu plus bien encore sixième.
C'est pas la même conception de moteur. C'était pas non plus la même vocation de moto. Enfin, les gens qui roulent en Victory seront pas forcément des gens qui basculeront sur Indian. Ça c'est clair. Parce que la moto leur correspond pas ou le moteur leur correspond pas. Les gens qui roulent en Victory sont bien souvent issus des gens qui viennent de motos japonaises parce que le moteur est beaucoup plus puissant qu'un moteur Indian.
Et très moderne, moi je trouve.
Très moderne.
Bien au niveau du moteur que de la partie cycle et du freinage.
Voilà.
Alors on peut revenir un petit peu justement sur le qui avait dessiné les
Arlen Ness.
C'est Arlen Ness,
toute la famille.
Parce qu'il y a un modèle où on a l'impression derrière quand on suit
la vision.
C'est la vision. On dirait
C'est avec ça que Victory est arrivé.
C'est un truc de. C'est fabuleux avec des.
Ça fait penser à l'arrière d'une Cadillac.
Cadillac, c'est ça. Voiture américaine, en fait.
Ça, c'est des rois collector, sûrement.
Il y avait, oui, ça va terminer en collector.
Bon, on n'a jamais parlé de autant de Victory que depuis une semaine. Donc, nous, on se dit. Non, mais c'est vrai en plus.
Il devrait fermer plus souvent, c'est ça?
Non, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, il y a. On a, en tout cas, pour nos clients Victory, eux ne sont pas inquiets. C'est même là un peu le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas inquiets parce qu'ils savent ce qu'ils ont comme moto. Ils connaissent la fiabilité des motos. Il y aura un SAV derrière. Maintenant, ça nous rassurait plutôt nos clients Indian, qui se posent plus de questions en disant ouais, mais ils vont pas faire la même chose avec Indian.
Donc on voit dans les communiqués de presse que donc Polaris veut plutôt se recentrer donc sur Indian, c'est un nom
mythique.
C'est le nom mythique. Il y a une histoire. Je suis pas là pour faire de la politique, mais je pense que Trump vient, enfin, jouer beaucoup dans l'arrêt de la décision.
Déjà. Il n'est pas encore président.
Victory avait l'objectif, enfin Polaris avait l'objectif de déplacer l'usine Victory neuve qui a été construite il y a un an et demi à côté du site Ford à Mexico de récupérer l'usine Victory pour en faire une troisième usine Indian pour continuer à produire. Donc ils continuaient à produire des Victory moins chères en production, donc ils continuaient, sauf que voilà, notre ami, on l'appelle comme on veut, a dû jouer beaucoup dans la décision.
D'accord. Et pas très sympa quand même.
Ces Américains.
Toi, t'as appris ça par la presse aussi.
Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu là. Ouais, on a appris ça. Bon, après, je comprends. Il y a des valeurs boursières. Ils ont des cotations. Ils peuvent pas divulguer pour éviter que le marché boursier s'effondre. Donc, ils envoient un message à tout le monde en même temps. Mais c'est un peu une douche froide. Ouais.
C'est un peu une douche froide. C'est aussi donc ton gagne-pain.
Des motos. Voilà. Notre gagne-pain, c'est beaucoup d'investissements. En même temps, moi, je garde confiance dans le groupe Polaris parce que je sais de quoi ils sont capables en termes de développement. Et leur objectif, c'est de faire une gamme complète Indian. Et ils vont y arriver, ils vont le faire.
Voilà. Est-ce qu'il y avait un grand écart de prix entre la Victory C'est
deux moteurs différents, mais c'est des architectures moteurs vraiment différentes et c'est des comportements moteurs différents. La difficulté qu'on va avoir, nous, pour l'instant, avec Indian, c'est qu'on a un entrée de gamme chez Indian qui est la Scout, 12 et 13 000 euros, et après, on bascule tout de suite sur des motos à 22 000. Donc, on n'a pas de gamme intermédiaire. En cylindrée intermédiaire et en gamme de prix intermédiaire. Mais ça devrait arriver très rapidement.
Très bien. Et donc, les gens qui vont acheter les Victory pourront encore avoir un service après-vente, des pièces.
Hors de question, je lâche mes clients, ça c'est clair.
Ouais, parce qu'en plus, elles étaient garanties 5 ans, je crois.
Garanties 5 ans. Oui, Polaris, de toute façon, ils ont une obligation légale de fournir des pièces pendant 10 ans.
Alors, on voit sur les communiqués de presse, 10 ans pendant 10 ans, on peut avoir des pièces.
Et puis,
dans 10 ans.
Et dans 10 ans, là après, voilà, je sais pas. Mais en même temps, n'importe quel constructeur de moto a une obligation légale de fournir des pièces pendant 10 ans. Après, ils peuvent dire, nous, on fournit plus parce que le modèle est trop vieux.
C'est ce qu'on a vu avec Buell.
Buell a fait. C'est le même problème que connaissent les gens qui ont acheté une Buell, où ça commence à être compliqué de trouver des pièces. Et bon. De toute façon, nous, à notre niveau, on n'a pas beaucoup de. On n'a pas de solution. Enfin, on n'a que le choix de dire on continue et puis.
Il faut acheter tout le stock de pièces et puis dans 10 ans.
On va développer Indian.
Voilà, très bien. Allez, on passe à un morceau de musique et on se revoit après.
Merci, Lamiche.
Guy, on revient un peu sur l'info tout terrain.
Le Dakar.
Le Dakar.
Qui est terminé.
J'en étais sûr. Oui.
Je crois qu'on en parlait assez. Adrien Van Beveren, non, il était parti pour une victoire, sixième l'année dernière, quatrième cette année. Il est que à 12 secondes du troisième, donc il rate le podium. Mais bon, il y a quand même une progression pour sa deuxième année. Et là, on le verra, bien sûr, au l'enduro du Touquet. Alors, le vainqueur, c'est un Anglais, Sam Sunderland, devant un Autrichien, Mathias Waldner, et un Espagnol, Gérard Ferrez. Je reprenais un peu le classement d'Adrien Van Beveren pendant les 12 jours. Alors, donc, les premières étapes, il était quand même que 11e, 12e, 9e, ensuite plusieurs fois 3e. Il a chuté, il a crevé. Bon, ça, c'est le lot de la course. Malheureusement, le Dakar, c'est un peu pile ou face. Hein, c'est pas forcément... sauf que l'honneur des motards est sauf avec Stefan Peter Hansel qui a remporté son 7e victoire en voiture, donc il y avait quand même 6 victoires en moto, et devant Sébastien Loeb, parce que bon, Sébastien Loeb c'est quand même
une pointure,
et Cyril Desprez qui a été 5 fois vainqueur du Dakar, qui fait 3e sur Peugeot. Je voulais dire un petit mot sur Philippe Croizon. Ça vous dit quelque chose ? C'est le gars qui était amputé des 4 membres, qui a fait, pas en moto bien sûr, hein, mais en voiture. Mais il a termine 48e au général. Donc il y avait tout un système pour le passage de vitesse, le volant, enfin, etc. Mais
belle performance.
Il y en a bavé, hein, parce que bon, c'est déjà c'est physique, avec les 4 membres en forme, c'est pas évident. Je voulais aussi parler de l'Enduropal. Enfin, on reviendra prochainement. Mais je rappelle les dates, 3, 4, 5 février. Il y a 5 catégories. Il y a l'Enduro Vintage.
Vintage. Voilà. Auquel Amish va participer prochaine. L'année prochaine.
J'avais préparé la moto.
On a discuté ça hier avec notre ami Xavier Couteau, qui est un gros man aussi, bien réputé et connu. Ouais. Donc c'est pour l'année prochaine. Ce sera pas pour cette
année. Il va mettre en place un team.
Voilà. Moi, il faut me former, hein, parce que je ne suis pas du tout crossman.
Alors, il y aura des catégories espoir, junior, quaduro, le quad. Il y avait un mec en quad qui a terminé, qui a fait le Dakar. Il est tombé en panne, enfin, il a abandonné, mais c'est un gars de Boulogne. On va essayer de le contacter pour la prochaine fois. Et il y avait aussi des pilotes nordistes qui ont fait le Dakar, que j'ai essayé d'avoir à plusieurs reprises. J'ai laissé plusieurs appels, ils m'ont jamais répondu. C'est Hugues de Liège qui fait 92e, il est quand même à 28h54 et 51 secondes du premier. Et son compatriote Timothée Vacheron, parce qu'ils roulaient ensemble, tu sais, parce que bon, ils terminent en queue de peloton, mais c'est
déjà pas mal de terminer.
Parce qu'avant, ils se sont d'abord entraînés ici dans le sable, ils ont dormi dans leur jardin sous des tentes, tu sais, pour être. Mais bon, par là.
C'est pas les mêmes températures.
C'est pas les mêmes températures quand t'es à plus de 4000 mètres d'altitude. Ouais.
Et puis l'oxygène aussi.
Et aussi, vous avez peut-être vu à la télé, le Dakar a eu aussi des étapes d'annulées à cause de débordements de rivières. Et bon, c'est. 2 fois, je crois, il y a eu
des conditions climatiques difficiles.
Voilà. Voilà. Et puis après, je voulais parler des courses sur glace. Alors, je reviendrai, parce qu'il y avait Claude Guéden, notre Français, qui était là-bas, qui a marqué quand même un point.
Un point quand même, c'est
par
bien.
Par moins 38. Voilà.
Ah ouais. Mais tiens, on va se reporter au calendrier, parce qu'il y a un petit article qui propose donc. Au motard d'aller faire une petite balade en Hollande. C'est la course la plus près de Lille. Hein.
De Lille, et c'est la finale.
Pour découvrir un peu. Ah, c'est la finale en plus.
Découvrir
un peu ces courses sur glace, c'est impressionnant.
C'est impressionnant.
Moi, la première fois que j'ai vu ça l'année dernière.
Ça sera le 1er et le 2 avril.
Voilà. Et c'est pas un poisson.
Allez, revenez. Voilà.
Allez, la page 12, il y a toutes les infos là sur le calendrier. Voilà, merci d'être venu, Gilles. Merci.
Merci.
Donc rappelle le bouquin, hein, on peut donc
oui, le sur, livre José sur José Barbara, disponible dans quelques librairies de la région et puis surtout sur internet, Amazon ou paulenordedition.fr.
Et la Bible de l'Essaminé également, voilà, un peu partout.
Plus facile à trouver.
Anthony, bon courage.
Merci.
Pour la suite des événements. Ouais. Merci Loïc d'être venu. Merci Guy pour toutes les infos. Christine, alors fantastique la Mayenne. Hein. Fantastique. Et Laurent, au revoir.
Au revoir. Au revoir, au revoir.